Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
On trouve Nicolas Dose avec cette idée, allez on va le dire ce matin, saugrenue. De deux prix Nobel d'économie, notamment Esther Duflo, sur l'idée de confiner du 1er au 20 décembre tout le pays pour que les fêtes de Noël se passent bien.
Et confiner intégralement le pays pour sauver Noël pendant 3 semaines, pendant le temps de l'Avent, j'ai envie de dire de quoi je me mêle.
Passer Noël au tison, bien au chaud, confiné à la maison pour lutter contre le Covid-19. C'est l'idée avancée par le couple de prix Nobel Esther Duflo et Abhijit Banerjee dans une tribune publiée par Le Monde. Et l'idée, qui énerve visiblement la rédaction de BFM Business, serait de sauver Noël, notamment en vue des effusions familiales dont pourraient être privés les plus fragiles face à ce virus qui nous empoisonne l'existence depuis des mois. Reconfiné préventivement, le mot est lâché. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos. Dans un épisode reconfiné à la maison, on va s'intéresser aujourd'hui à deux pays, l'un qui reconfine petit à petit l'Angleterre et l'autre qui n'en finit plus de se confiner, l'Argentine.
Bah, je pense que vous avez compris qu'on fait tout pour éviter un reconfinement général.
Donc c'est inenvisageable.
J'ai pas dit ça, j'ai dit qu'on fait tout pour l'éviter. Et c'est le sens notamment des mesures complémentaires qui ont été annoncées la semaine dernière par Olivier Véran pour limiter la propagation.
On fait tout pour l'éviter, donc on ne peut l'exclure.
Enfin, vous savez, je pense qu'avec ce virus, on n'exclut rien.
En France, le reconfinement n'est plus un tabou. Avec ce virus, on n'exclut rien, a reconnu Elisabeth Borne, la ministre du Travail sur RMC, et qui marche sur des œufs. Les mesures annoncées par Olivier Véran, le ministre de la Santé, dans le sud-est de la France, ont eu beaucoup de mal à passer. C'est ce qu'il y a de compliqué avec ce virus qui n'arrête pas de prendre à contre-pied tous ceux qui annonçaient qu'il n'y aurait pas de deuxième vague en France. Car au-delà de la France, d'autres pays européens se préparent au pire, à l'image de l'Espagne, où la région de Madrid est confrontée à une recrudescence de l'épidémie. Le nombre de patients Covid s'est multiplié par 10 en moins de 2 mois dans les hôpitaux de la capitale et ses alentours, et le petit rebond détecté en août s'est transformé en une vague imparable, écrit la correspondante des Échos, Cécile Thibault. L'Allemagne d'Angela Merkel s'attend aussi à une explosion des cas positifs dans les semaines à venir, alors qu'à l'échelle mondiale, la barre du million de décès a été franchie. La pression remonte un peu partout, alors que les gouvernements veulent à tout prix éviter un reconfinement total qui serait désastreux pour l'économie. Vous vous demandez peut-être ce que cela serait de revivre un confinement après les 2 mois du début d'année. Dans quelques minutes, nous irons dans un pays, l'Argentine, qui vit confiné depuis 6 mois.
Je m'ennuie.
Mais avant de traverser l'Atlantique, passons la Manche, où à quelques semaines du Brexit, le Premier ministre Boris Johnson est aux prises avec un virus plus coriace encore que les négociateurs européens. Bonjour Alexandre Kounis.
Bonjour Pierrick.
Vous êtes le correspondant des Échos à Londres. Comment se porte le virus outre-Manche ?
Bah alors plutôt bien, malheureusement. On a connu plusieurs jours à environ 7000 nouveaux cas, alors qu'on était jusqu'à présent autour de 3000 et autour de 70 morts. C'est à peu près autant que ce que le pays déplorait il n'y a pas si longtemps sur une semaine entière. Et il y a eu des fortes poussées donc du virus dans le nord-est, le nord-ouest et le centre de l'Angleterre, et aussi au Pays de Galles où la situation s'est bien détériorée ces derniers jours avec des lockdowns, donc des confinements régionaux.
Il ne fait aucun doute. Comme je l'ai dit depuis plusieurs semaines maintenant, nous voyons maintenant arriver une deuxième vague, comme c'est le cas en France, en Espagne et plus largement en Europe. Il est, j'en ai peur, absolument inévitable que nous la voyions dans ce pays. Il y a quelques jours, Boris Johnson s'est rendu à Oxford pour visiter le site de construction d'un futur centre de fabrication de vaccins. Le mot de reconfinement n'est plus tabou à Londres, Alexandre ?
Alors hélas, non. Hein. Pour la ville de Londres, il est plus tabou. Et en tout cas, depuis une dizaine de jours, où la ville a été ajoutée à la liste des zones placées sous étroite surveillance. À Londres, le virus s'est surtout développé en fait, dans les quartiers est de la capitale. Mais bon, Boris Johnson y réfléchira sans doute à deux fois avant de reconfiner Londres, hein, tant la pression est forte chez les députés, y compris dans ses propres rangs conservateurs, pour limiter les dégâts collatéraux des confinements régionaux dont on parlait à l'instant sur l'économie britannique. Après, c'est vrai que cette pression a encore monté d'un cran ces derniers jours, certains accusant Johnson de mettre le pays en prison depuis qu'il a multiplié les mesures de restrictions régionales tout en augmentant les amendes. Mais bon, la situation se détériore sur le plan sanitaire et donc on ne peut pas jurer de ce qui adviendra dans les jours qui viennent.
Oui, c'est vrai que l'Angleterre a déjà annoncé des mesures fortes, hein, comme la fermeture des pubs à 22h. On sait à quel point c'est important pour les Britanniques. Et surtout, ils leur recommandent de travailler chez eux.
Oui, alors c'est ce qu'on appelle un virage à 180 degrés. Alors qu'ils cherchaient depuis plusieurs semaines le moyen de convaincre les employés anglais de revenir au bureau. Avec la reprise de l'épidémie, Boris Johnson a finalement dû se résoudre il y a une dizaine de jours à leur conseiller de rester chez eux pour potentiellement, a-t-il dit, les 6 prochains mois. Donc on peut dire qu'il a ruiné à ce moment-là sans doute tout espoir de faire revenir à court terme les salariés dans les tours de la City, alors que les managers s'évertuent depuis la rentrée à les convaincre de revenir. Dès le lendemain d'ailleurs, PricewaterhouseCoopers a renvoyé chez eux la moitié de ces 22 000 salariés qui étaient revenus au moins à temps partiel dans ces locaux londoniens. Et puis chacun à son tour, HSBC, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan, ont gelé leur plan de retour au bureau.
Ça veut dire, Alexandre, que les Britanniques étaient restés massivement en télétravail ?
Oui, et c'est d'ailleurs une originalité en Europe. En tout cas à Londres, qui est évidemment le poumon économique du pays, et en particulier sur donc, les cols blancs, les employés de bureau. Selon une récente étude de Morgan Stanley, il y a seulement 29%, donc moins d'un tiers des employés de bureau, qui étaient revenus à leur poste à Londres à la fin août. Ça n'avait d'ailleurs pas beaucoup changé entre le début et la fin août. Si on compare à Madrid, c'est 61%, Francfort 68%, Paris 76% et Milan 78%. Alors, il faut dire qu'à Londres, ce qui fait la spécificité et le charme de Londres, c'est que les distances sont très très grandes à parcourir pour aller de la maison au travail. Et les transports sont très chers aussi, plusieurs milliers de livres pour les abonnements régionaux, par exemple quand on habite Oxford et qu'on travaille à Londres, sur l'année. Et ça, c'est évidemment pas fait pour convaincre les londoniens de quitter la maison et de rentrer au bureau, sans parler évidemment de la peur du virus, hein, évidemment, qui dissuade encore pas mal de gens de reprendre les transports.
We are the UK. Working with you.
Alexandre, vous êtes allé vous balader dans la City, le quartier d'affaires de Londres, l'un des plus puissants au monde. Si j'ai bien compris, vous ne l'avez pas reconnu ?
Oui, ou à peine. Hein. C'est vrai qu'on n'est plus dans la profonde léthargie du mois de mai. Hein. J'étais allé en mai, c'était vraiment tout à fait mort. Mais le quartier, qui a d'habitude l'air d'une ruche, hein, avec des rues noires de monde, a visiblement quand même toutes les peines du monde à se réveiller. On dirait un peu Paris en plein mois d'août, hein, avec les touristes en moins. Les rues sont pas désertes, mais elles sont loin d'avoir l'agitation habituelle. Les magasins ont rouvert, mais ils sont presque vides. Et de nombreux pubs ou restaurants restent encore porte close. Bref, l'activité tourne vraiment, vraiment au ralenti.
Ça veut dire que beaucoup d'entreprises semblent parties aussi pour s'installer dans le télétravail sur la durée.
Oui, non seulement le gouvernement pousse pas à la roue, on l'a dit, hein, mais les entreprises y ont trouvé leur compte, hein, en renvoyant leurs salariés chez eux. Elles font des économies de fonctionnement dans une ville où les loyers sont si chers que le moindre défaut d'optimisation de leur parc immobilier se paye cash, sans compter la volonté de protéger la santé de leurs salariés et aussi, par là même, de s'éviter des procès. Au Royaume-Uni, on n'hésite pas à dégainer son avocat à la première contrariété et ceux qui tombent malades risquent d'être prompts à accuser leur patron d'avoir manqué de rigueur sur leur sécurité.
C'est compliqué de faire revenir les Londoniens au bureau. Le coronavirus et le confinement tardif du pays ont traumatisé la population ?
Oui, le nombre de morts aussi, hein, je pense. Hein, je rappelle que c'est avec 42 000 morts, c'est le record quand même d'Europe. Les gens ont encore des réticences à reprendre les transports en commun, on le disait. Qui sont loin d'être revenus à leur niveau de fréquentation habituel, à tel point que certains établissements de la City ont dû sortir leur carnet de chèques, à l'image de Bloomberg, qui avait proposé début septembre de rembourser à concurrence de $75 par jour les frais de taxi, de péage ou de parking de ces 20 000 salariés dans le monde, dont les 4 000 de la City. C'est donc une manière un peu de les aider à sauter le pas, à un moment où moins de 10% d'entre eux étaient revenus dans le nouveau siège, d'ailleurs flambant neuf, pour l'Europe, qui a été construit par le célèbre architecte Norman Foster pour un montant quand même d'1,3 milliard en livres.
Oui, c'est vrai qu'1,3 milliard en livres pour un siège quasiment vide, ça doit faire mal au cœur du directeur financier de l'entreprise.
Ça fait un peu réfléchir.
Vous le disiez, les rues de la City ressemblaient à celles de Paris en plein mois d'août. C'est un vrai casse-tête pour le secteur de la restauration ?
Oui, c'est un cauchemar pour toute l'économie de services qui, dans les quartiers d'affaires, gravite habituellement autour de la présence au bureau. Alors, la chaîne de restaurants prêt-à-manger a été un peu emblématique. Elle a annoncé dès la fin août la suppression de 2890 emplois. C'est près du tiers de ses effectifs dans le pays. Il faut dire que ses ventes avaient alors baissé de 60% par rapport à leur niveau de l'année précédente et même de 85% à fin juillet dans le seul quartier de la City, c'est dire. Mais les cafés Costa ont aussi averti au début du mois de septembre que 1650 de leurs emplois étaient menacés. La chaîne de restauration asiatique Itsu a engagé des discussions pour réduire les loyers de 53 de ses 77 points de vente. Le Pain Quotidien a supprimé 200 postes et fermé 11 restaurants, après avoir été d'ailleurs sauvé de la faillite. Et la sandwicherie Greggs, qui normalement marche très bien, a dû revoir à la baisse son programme d'ouverture de magasins.
Je parlais tout à l'heure de la fermeture des pubs à 22h, à l'une des mesures importantes annoncées par Boris Johnson. Comment est-ce que la nouvelle a été perçue par la population ?
Alors bien sûr, ça râle, hein, mais j'ai l'impression que les gens ont surtout mis en doute l'efficacité de la mesure. Hein. Pourquoi à 22h ? Qu'est-ce qui se passe d'un seul coup à 22h ? Et critiquer aussi ses effets secondaires, comme le street drinking, hein, c'est le fait que les gens continuent de boire, mais dans la rue, ce qui évidemment gêne les riverains et surtout ne résout rien en termes d'épidémie.
Le couvre-feu à 22h imposé aux pubs en Grande-Bretagne pour les 6 prochains mois pourrait coûter cher selon une étude réalisée par Oxford Economics. Il pourrait entraîner la fermeture de plus de 11 000 pubs, soit un quart des bars du royaume. Près de 300 000 emplois seraient en jeu. Alexandre, au-delà du mécontentement provoqué par ces fermetures précoces, le principal risque politique est ailleurs pour Boris Johnson ?
Bah oui, le risque, il est surtout de créer un pays à deux vitesses, hein, où le fossé se creuse entre d'un côté les cols blancs, bien heureux, travailler à distance, et puis de l'autre les cols bleus, moins chanceux, qui ont dû reprendre le chemin de l'usine ou des magasins dès la fin du confinement, donc en juin. De quoi nourrir évidemment toutes les jalousies ou d'attiser les frustrations, de quoi aussi embarrasser Boris Johnson qui doit aux électeurs de cette working class sa large victoire aux dernières législatives de décembre, en particulier dans les ex-bastions travaillistes, largement brexiteurs d'ailleurs, du centre et du nord de l'Angleterre et qui cherchent désormais à choyer cet électorat populaire pour essayer de le fidéliser.
Oui, vous parlez hein, effectivement des bastions du centre et du nord de l'Angleterre. On a beaucoup parlé de Londres, le cœur de l'économie et de la finance du royaume. Comment ça se passe dans les autres régions ?
Bah, pas bien. Hein, et depuis quelques temps déjà, le virus sévit fortement, et plus qu'ailleurs dans le nord, notamment dans la région de Manchester, de Birmingham, mais aussi depuis quelques jours donc au Pays de Galles, j'en parlais tout à l'heure. Et ça s'étend.
Vous l'avez dit, le retour au télétravail d'une partie de la population, les restrictions annoncées par Bojo ont un impact sur la croissance. Est-ce que ça risque, comme en France d'ailleurs, de se faire ressentir aussi sur les chiffres du chômage ?
Oui, bien sûr. Pour l'instant, on parle d'environ 700 000 emplois déjà détruits depuis le début de la pandémie et un chiffre qui pourrait monter, selon certaines estimations, à 1 million sur l'année. L'inquiétude monte pas mal sur la suite et notamment sur la fin du dispositif gouvernemental de chômage partiel qui est prévu pour la fin octobre et qui doit être remplacé à ce moment-là par un autre mécanisme où l'État complétera la rémunération des employés que le Covid a forcé à se mettre à temps partiel. Donc il y a beaucoup d'inquiétudes qui se focalisent sur ce moment clé et beaucoup de gens qui s'inquiètent d'une aggravation des chiffres du chômage à ce moment-là, notamment parce que ce nouveau mécanisme est conçu pour concentrer l'aide de l'État sur les seuls emplois réputés viables.
En attendant, conséquence de cette deuxième vague, les Britanniques se sont rués sur l'application de traçage NHS Covid-19, l'équivalent du Stop Covid. L'application a été téléchargée 12 millions de fois en 5 jours, dont la moitié le jour de son lancement. Il y a quelques mois, en pleine pandémie de Covid-19, la chorale du Brooklyn College avait repris sur Zoom le titre « You'll Never Walk Alone ». 300 personnes venues de 15 pays avaient entonné le chant fétiche du club de Liverpool « Tu ne marcheras plus jamais seul ». Les relations entre Argentine et Royaume-Uni n'ont pas toujours été au beau fixe, mais aujourd'hui, les deux se retrouvent unis par le lourd tribut qu'ils payent à la crise sanitaire. Et si le confinement de 2 mois en France vous a paru long, sachez qu'en Argentine, il dure depuis 6 mois, interminable.
Le confinement, il démarre très tôt, dès le 20 mars, et il est maintenant prolongé jusqu'au 11 octobre et de façon différenciée selon les régions.
Flora Genoux est correspondante des Échos en Argentine.
Quand il commence, l'Argentine ne compte qu'une centaine de cas et confiner très tôt semble alors la solution pour éviter les scénarios à l'européenne. Rappelez-vous, à l'époque, les courbes de contamination montent en flèche en Italie, en Espagne, en France aussi, et l'Argentine souhaite à tout prix éviter ça. D'ailleurs, ce n'est pas l'unique pays de la région qui a instauré un isolement si tôt, c'est le cas du Pérou aussi, mais dans la foulée aussi de la Colombie. Il faut savoir que c'est une décision qui est applaudie ici par la population, qui crédite à l'époque le président de centre-gauche, Alberto Fernandez, une très grande confiance, et cet isolement strict sur tout le territoire est alors très respecté par la population.
Vous pensiez que ce serait aussi long ?
Non, personne ne pensait que ce serait aussi long, ça va durer 2 semaines, un mois peut-être, ou comme l'indique l'étymologie du mot en espagnol, si on dit quarantena, hein, qui vient de 40 à 40, bon, ça va peut-être durer 1 mois et demi, 2 mois tout au plus, mais le confinement, il a été prolongé toutes les 2-3 semaines lors de conférences de presse présidentielles qui deviennent une espèce de rendez-vous, et le président répète énormément cette phrase qui devient presque un slogan. On peut relever l'économie et pas une vie perdue. Son discours, c'est « l'État vous protège et on prépare le système de santé pour faire face à la vague. Restez chez vous ».
C'est un confinement strict ?
À l'époque, au mois de mars, oui. D'autant qu'il est mis en place sur tout le territoire, même dans les provinces où il n'y a pas de cas recensés. Ce sont d'ailleurs ces régions-là qui assouplissent le confinement au fur et à mesure ou en sortent partiellement. C'est la grande région de Buenos Aires, donc la capitale et sa très grande banlieue, qui poursuivent cet isolement de façon ininterrompue. Ça représente environ 15 millions de personnes, c'est un tiers des Argentins quand même, parce que c'est là que se concentre l'écrasante majorité des cas. Alors de façon graduelle, les industries, les commerces commencent à rouvrir, même dans cette région. C'est finalement pour les gens que cet isolement est le plus dur. Pour vous donner une idée, l'activité physique à l'extérieur est autorisée seulement dans la capitale au bout de 80 jours de confinement, tard le soir, tôt le matin et en fonction du numéro de carte d'identité. Les enfants ont le droit de sortir et dans la capitale seulement, et seulement le week-end dans un premier temps au bout de 2 mois. Il y a longtemps eu en fait un discours de peur de la part des autorités. D'ailleurs, les dénonciations d'infractions au confinement sont encouragées. Ça ne pose ici aucun questionnement éthique. Devant la porte de mon appartement à Buenos Aires, j'ai trouvé à 2 reprises le mois dernier une note rapportant la référence de l'appartement où des cas positifs avaient été détectés et rappelant les lignes de dénonciation que les voisins peuvent appeler s'ils constatent une infraction au confinement. Les premiers mois, les 4 personnes qui sont rendues illégalement à un anniversaire ou à une réunion familiale et ont propagé le virus sont affichées dans la presse et certains sont même poursuivis en justice. C'est le cas d'un homme qui a récemment été condamné à 3 ans de prison avec sursis dans le nord de l'Argentine. Et depuis très récemment, finalement, ce confinement, il a été assoupli dans la capitale surtout. Donc les terrasses de cafés et de restaurants ont pu rouvrir après 5 mois et demi de confinement, ce qui redonne des couleurs à la ville. Et au bout de 5 mois et demi de confinement, c'est aussi la capitale qui autorise les regroupements de moins de 10 personnes en plein air. Et dans cet État fédéral, c'est d'ailleurs la ville de Buenos Aires, donc mairie de centre droit, qui affiche un discours différent en insistant sur la responsabilité individuelle. Et dans ce pays qui est très polarisé politiquement, les assouplissements de la capitale ont pu être très critiqués par les tenants du confinement qui estiment que boire un café en terrasse, même après 6 mois de confinement, relève d'un égoïsme sans borne quand le personnel soignant met sa vie en danger. En fait, Buenos Aires, la capitale, elle laisse une impression qui est très contrastée. C'est un mouvement en trompe-l'œil qui a repris. Moi, j'habite dans un quartier résidentiel à côté d'une place avec des espaces verts et j'ai jamais vu autant de monde dans la rue. Les gens n'en peuvent plus, ils sortent prendre l'air. Les enfants qui n'ont plus d'école présentielle jouent sur cette place toute la journée, même en pleine semaine. Et ça aussi, c'est totalement inédit. Et puis, quand on se rapproche des quartiers d'affaires ou de fonctionnaires, c'est une autre image de la ville qu'on rencontre. J'étais il y a quelques jours près du palais présidentiel pour une interview, mais aussi aux abords du Congrès. Et là, franchement, les rues sont tristes parce que ce sont des quartiers qui vivent surtout en journée avec les bureaux. Et depuis quasiment 7 mois, c'est le télétravail qui prévaut. Et puis, cette agitation de la ville, en fait, elle est un peu illusoire dans le sens où on ne parle pas d'une vie qui a repris comme avant, mais avec des masques et de la distanciation sociale pour faire vite. Parce que, pour vous donner des éléments repères, il est illégal de se rendre chez un proche ou de recevoir un proche. Prendre les transports en commun aussi est interdit si on n'est pas travailleur essentiel. La règle, c'est le télétravail. Les frontières du pays restent fermées, sauf exception. Il est très difficile de voyager au sein même du pays. Le tourisme interne, en fait, il n'existe pas actuellement et surtout, les écoles de tout le pays et depuis le mois de mars restent fermées.
La rue est à nous, que la joie vienne.
Pas d'école depuis 6 mois, mais la possibilité quand même d'aller boire un maté en terrasse, ça ne veut pas dire, malgré tout, que les enfants n'ont pas accès à l'éducation ?
Oui, alors l'éducation, c'est à distance, hein, de façon virtuelle. Alors j'insiste sur le fait qu'on est en plein dans l'année scolaire ici. Il n'y a pas eu les vacances d'été au milieu. Hein, dans l'hémisphère sud, la rentrée scolaire a eu lieu en mars, pour quelques jours seulement, et depuis, c'est école à la maison. Alors les enseignants, ils se démènent comme ils peuvent pour poursuivre ces cours à distance, mais le coût pédagogique, il va être énorme ici. On parle quand même d'un pays où il y a 40% de la population qui est pauvre. Toutes les familles n'ont pas un ordinateur à disposition pour les enfants. La moitié des élèves de primaire utilisent le téléphone portable de leurs parents pour envoyer leurs devoirs. Ça, ce sont les chiffres des ONG. Et l'Argentine, c'est aussi un pays où la connexion Internet est de mauvaise qualité. Donc, la connectivité numérique, ça devient un nouvel élément d'inégalité sociale. Il y a aussi de nombreuses zones rurales reculées où il n'y a pas de connexion Wi-Fi. Donc, ce sont parfois les enseignants qui distribuent des cahiers de devoirs et vont les récupérer ou envoient des messages audio par la messagerie WhatsApp aux parents, donc des messages courts, pour être sûr qu'ils arrivent à destination, afin d'assurer le suivi des élèves. Donc, certains élèves ont totalement perdu le contact avec l'école et les associations redoutent une vague de décrochage scolaire, d'autant qu'aucun plan de retour à l'école présentielle n'a été communiqué, même dans les localités épargnées par le virus.
Six mois sans école, 6 mois sans fête, avec des relations sociales réduites à la portion congrue. Flora, comment la population vit-elle cette période d'isolement forcé ?
Alors, il y a une profonde lassitude. Avant la pandémie et le confinement, les Argentins, ils s'étaient déjà éprouvés par 2 années de récession. Actuellement, avec la courbe des décès qui ne cesse d'augmenter, la sensation, c'est un peu « mais tout ça pour ça ». Finalement. Cet isolement si long, il a eu des conséquences donc, sur la santé mentale, avec l'augmentation des états dépressifs, anxieux, des troubles du sommeil aussi. Ça, c'est une réalité qu'on constate en regardant les chiffres des pharmacies, où les ventes des somnifères anxiolytiques et antidépresseurs ont augmenté. Les psys parlent aussi d'un certain sentiment de désespoir, d'autant que pendant tout ce long confinement, il n'y a eu aucune date, aucun horizon qui a vraiment été donné. Jamais le gouvernement n'a parlé d'un plan de déconfinement. Et des comportements de régression sont observés chez certains enfants aussi, et comme ailleurs dans le monde, les études montrent ce sont les ados, les adolescents et les jeunes adultes qui souffrent le plus de cet isolement, mais aussi un fort désir de vie. Je vous parlais du mouvement dans les rues. Les Argentins qui ont connu de nombreuses crises, ils ont aussi une très grande capacité de rebond, même s'ils disent que cette crise-là n'a rien à voir avec les autres. J'ai interviewé il y a quelques jours un habitant d'un bidonville qui me disait que la période était très difficile, mais il me disait aussi « on a la peau dure ». On va dépasser cette épreuve. Et surtout, il trépignait d'impatience parce qu'il souhaitait travailler. Il souhaitait notamment que le secteur de la construction soit de nouveau habilité.
Les dommages psychiques sont réels. Selon une étude, 45% des Argentins ont augmenté leur consommation d'alcool et 6 personnes sur 10 ont pris du poids, sans compter une augmentation inquiétante des féminicides. Je n'arrive pas à payer mon loyer, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi faire. Travailler et travailler toute la journée. Si vos querés, c'est la chanson devenue un hymne des opposants à l'ancien président argentin Macri, défait lors des dernières présidentielles. Il a payé la dégradation économique. Mais j'imagine que la pandémie et ce confinement n'arrangent pas les affaires de la population et de l'économie argentine.
Oui, alors le produit intérieur brut devrait chuter de 12% cette année. La moitié de la population pourrait être pauvre d'ici de la fin de l'année et les enfants sont surreprésentés statistiquement. Selon l'UNICEF, 6 enfants sur 10 pourraient vivre dans la pauvreté d'ici le mois de décembre. Par ailleurs, le pays doit encore résoudre la question de la dette avec le FMI. Mais sur les conséquences du confinement, les économistes y sont nuancés en fait, parce que des pays qui n'ont jamais mis en place un confinement total aussi ont vu leur économie s'effondrer. Ce qui est certain, c'est que ce sont les secteurs les plus liés à la consommation quotidienne qui sont touchés, donc la restauration, le tourisme et le secteur de la construction aussi qui est très touché.
Quelle a été l'efficacité de ce confinement, hein, le confinement le plus long du monde en matière de santé publique ?
On fera les comptes à la fin, disent les épidémiologues, même les plus critiques de la stratégie du gouvernement. En tout cas, les chiffres aujourd'hui sont très mauvais. L'Argentine n'a toujours pas passé le pic et dans ses bilans quotidiens, ses derniers bilans quotidiens, c'est le pays qui compte le plus de décès par nombre d'habitants. D'ailleurs, même en ayant agi si tôt, même avec ce long confinement, l'Argentine talonne la France quand on regarde le nombre de morts au regard de la population. Les 20 000 décès ont été dépassés. Le gouvernement continue de défendre sa gestion en insistant sur le fait que le système de santé n'a jamais saturé et que l'isolement a permis justement d'équiper les hôpitaux. Les lits en thérapie intensive ont été dupliqués dans la province de Buenos Aires, la plus peuplée du pays. Mais ce qui manque actuellement, ce sont les ressources humaines, le personnel soignant. Et dans différentes régions du pays, les hôpitaux sont proches des seuils de saturation.
Certains dénoncent un confinement précipité et improvisé.
Oui, alors il est frappant de constater que le gouvernement a bénéficié d'un très grand consensus politique, mais aussi scientifique. Finalement, il y a peu de voix qui se sont élevées ici pour critiquer la gestion sanitaire. Donc les scientifiques qui le font disent qu'au début de la pandémie, au mois de mars, les vols revenant d'Europe et des États-Unis, qui sont ceux qui ont amené les virus, auraient dû être plus contrôlés. Le pays a perdu du temps. Ils disent aussi que l'isolement n'aurait dû et ne devrait pas concerner les personnes qui sont en bonne santé. Ensuite, le virus s'est propagé dans les bidonvilles et parmi les travailleurs informels qui représentent 40% de l'économie. Ici, finalement, on peut se demander quelle est l'ampleur de l'efficacité du confinement dans des pays pauvres ou émergents. Et pourtant, en Argentine, des aides exceptionnelles pour les personnes les plus démunies ont été mises en place aussi afin qu'elles puissent respecter le confinement et qu'elles restent chez elles. Et puis, cet isolement qui a été déclaré très tôt, finalement, il a épuisé la patience de la population à un moment où il y avait peu de cas. Et depuis de nombreuses semaines déjà, les comportements ils se sont relâchés au pire moment. Et le gouvernement aussi, il a dû réhabiliter une certaine reprise économique. Et c'est tout ça qui participe actuellement à la propagation du virus.
C'est pour cette raison que l'Argentine n'arrive pas à s'en sortir ?
Alors, il faut aussi comprendre l'état du système sanitaire argentin qui est sous-doté depuis des années. Finalement, pendant de longs mois, isoler toute la population, faute de marge pour recevoir des malades, ça a semblé la seule solution. Alors, il faudrait plus tester, il faudrait tracer les malades, disent aussi les scientifiques. Or, tester, ça coûte cher. Puis finalement, le gouvernement, il semble pris au piège de sa propre stratégie. Parce que déconfiner maintenant, alors que le pic n'est toujours pas passé, c'est prendre le risque d'un effondrement du système de santé. Et après tous ces mois d'isolement, le coup, il ne serait pas seulement sanitaire, il serait aussi politique. D'ailleurs, il l'est déjà parce que la confiance s'est étiolée.
Il faudra attendre l'été austral, c'est-à-dire fin novembre, pour que le confinement s'arrête complètement.
Alors ça, personne ne le sait. Aucun plan de déconfinement national n'a été présenté. Dans la province de Buenos Aires, le gouverneur a promis qu'il existerait une saison touristique estivale, donc au mois de décembre-janvier. En pleine explosion des cas, ça semble très loin. Et toutes les personnes que j'ai rencontrées en interview disent qu'elles savent que ça va durer encore un long moment et elles disent « on vit au jour le jour ».
Merci Flora Genoux, correspondante des Échos à Buenos Aires, et Alexandre Kounis, correspondant à Londres. La Story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez suivre La Story sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à partager nos émissions. Pour l'information en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.